Bonjour à tous, attendez, hop là, shalom. Voilà, on est lancé, on est parti, changement de décor, je suis dans la chambre de mon fils, voilà, c'est normal, tout va bien, Corona oblige. Est-ce que tout va bien, tout le monde m'entend, on peut commencer? Oui, faites-moi juste un petit signe et on se lance. Ken, Yala, quelqu'un me fait un signe? Oui, super Yaron, c'est parti. Alors on y va, on est parti pour notre chiour de Parashat Hashavua. Parashat Hashavua, c'est parti, allons-y, yofi. Donc cette semaine, on a double ration de Parashat, puisque Gam Parashat Tazria et Gam Parashat Metzora. Donc on va essayer de traiter les deux parashiot. Et vous allez voir, on a du boulot. Alors allons-y, sans plus tarder, le titre du cours, vous allez voir, la foi où nous avons eu foi en notre foi. Vous avez compris que foi ne s'écrit pas pareil, bien sûr. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça y est, j'ai une question à vous poser. On est rentré dans le livre de Vayikra, on est en plein milieu du livre de Vayikra concrètement, et la question que je vais vous poser c'est, est-ce que c'est inné d'être ma'amine ou pas? Est-ce que la émouna, le rapport à Dieu, c'est quelque chose qui est du domaine de l'inné au shelo? C'est pas évident cette histoire. Pourquoi ce n'est pas évident? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. On vit dans un monde où lorsqu'on se balade dans le monde, eh bien, on n'est pas du tout obligé de remarquer le dévoilement de Dieu. Dieu s'est suffisamment bien caché dans son monde pour qu'on ne le voit pas comme ça tout le temps. Des fois, il se dévoile, mais la majorité du temps, il ne se dévoile pas. Et nous, qui avons appris la tradition juive, alors on sait que même lorsqu'il se cache, il est là. Mais quelqu'un qui n'aurait pas appris cette tradition. En d'autres termes, ma question est la suivante. Est-ce que être religieux, entre guillemets évidemment, c'est quelque chose d'évident ou pas? Eh bien, la réponse est bien sûr que non. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis cela, mais c'est quelqu'un qui a posé cette question dans un livre qui raconte ses mémoires. Le quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez très bien, il avait plusieurs casquettes, évidemment, mais au final, à ses heures perdues, après avoir été empereur de la France et des Français, il est devenu, il a fait un petit tioul dans une île du Pacifique à Sainte-Hélène, là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, notre ami Bon Appartement, notre ami Napoléon a posé une question par rapport à la notion même de religion. Alors, sa question, il la tourne vers le christianisme, ou du moins contre le christianisme, mais elle est vraie pour tout le monde. Quelle est cette question? Dit Napoléon dans ses mémoires, il dit « Moi, je suis prêt à accepter une religion, quelle qu'elle soit. » Il parle du christianisme, mais quelle qu'elle soit. À une condition. Si vous me dites, vous les religieux, qu'on ne peut pas se passer du rapport à Dieu, qu'on ne peut pas se passer de la religion, alors pour que j'accepte une dite religion, il faut qu'elle ait apparu aux premiers âges des hommes. Mais si il y a une religion que vous prenez comme étant la religion, la vraie, mais qu'elle n'est apparue qu'à un moment T de l'histoire, eh bien, ça veut dire qu'avant, on pouvait très bien s'en passer, que les hommes ont vécu avant cette religion, et ça s'est très bien passé. Donc, si une religion est née à un moment T, c'est qu'on peut s'en passer. Eh bien, la question posée ici ouvertement par Napoléon, c'est une vraie question, même si lui la tourne vers le christianisme, mais on peut la tourner chez nous également, puisque la Torah ne va être donnée qu'à l'époque de Moshe. Et Moshe, c'est 26 générations après Adam Arishon. Donc, on est en droit de se poser la question, si on a pu tenir 26 générations sans la Torah, peut-être que ce n'est pas nécessaire. En fait, cette question n'est pas du tout une question purement technique. On ouvre la paracha de Tazria, et là, on y voit tout de suite ce qui se passe si jamais une femme met au monde un garçon. Et on nous dit, Yom Hashemini Yimol et Besar Orlato, qu'à 8 jours, on doit lui faire la Brit Mila. Je ne vous apprends rien, me diriez-vous. Mais c'est justement ça qui me pose problème. Que je ne vous apprenne rien. C'est-à-dire que d'où on a appris qu'il fallait faire une Brit Mila? Est-ce que j'ai attendu le livre de Vayikra, ici, dans notre paracha de Tazria? Oui, est-ce que on a attendu, excusez-moi, le troisième chapitre du chapitre 12, le troisième verset du chapitre 12 du livre de Vayikra? Ou bien ma chemini, moi, de Bessar Olato? Pour apprendre qu'il faut faire la Brit Mila, ou est-ce qu'on le sait déjà d'avant? Il y a une question de Yaron que je ne comprends pas. Comment a-t-il fait pour accepter la chrétienté alors qu'elle n'a pas prétention à dire que Dieu a créé le monde? Je pense que tu dois revoir tes classiques du catéchisme, puisque la chrétienté se base quand même sur l'Ancien Testament, comme ils l'appellent. C'est-à-dire qu'ils se basent quand même sur la Torah. Et donc pour eux, Dieu a, oui, créé le monde. Donc, voilà, revois ton catéchisme, s'il te plaît. En tout cas, voilà, Adassa, tu as raison. Tu dis, on a appris ça de Abraham. Évidemment qu'on sait qu'il faut faire la Brit Mila depuis le 17e chapitre du livre de Bereshit, où là-bas, Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham de faire la Mila. Eh bien, c'est toute la question de Napoléon. Est-ce que, lorsque mon fils est né, Ouria, pour les intimes, est-ce que lorsque mon fils est né, que je lui ai fait la Brit Mila? Oui, c'est moi qui lui ai fait la Brit Mila. Oui, c'est moi qui ai coupé. Oui, certes, c'est vrai. Et peut-être que certains d'entre vous étaient là. Ah oui, tout à fait. Je ne suis pas Moël, mais lorsque mon fils est né, eh bien, j'ai appelé le Moël, je lui ai dit, Kvod à Moël, j'ai eu un garçon. Il m'a dit, Mazal Tov, on se revoit dans 8 jours. Je lui ai dit oui, et juste avant qu'il raccroche, je lui ai dit, deux secondes. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être moyen de moyenner que ce soit moi qui coupe. Il m'a dit, on verra. On arrive le jour J, on est à la yeshiva, tout le monde est là, mon papa est là, il sera le sandak. Et oui, très, très tendu, très stressé. Oui, mon père a déjà vu plein de Brit Milot, mais là, c'est la première fois que ça le touche personnellement. Et puis, on n'est pas tellement rassuré quand on lui pose le bébé de tenue. Et qu'il y a un monsieur inconnu qui s'approche avec un couteau. Bon, c'est quand même stressant. Sauf que ce n'était rien comparé au moment où le Moël lui a dit à mon père, « Bon, alors tu lui tiens bien les jambes, bien comme ça, nanana. » Il avait l'air pro, hein, le Moël, hein, mon père s'est dit. Sauf que là, je me suis mis à côté du Moël, j'ai dit, « Tu te rappelles, je t'ai demandé s'il y avait moyen de moyenner ?» Il m'a dit, « Fais voir tes mains. » Je lui ai dit, « Ben voilà, regarde. » En fait, il me demandait parce qu'il y avait plein de papas qui voulaient couper, mais que le jour venu, ils étaient en mode tremblement en Parkinson, ce qui peut être un problème pour faire la brite. Donc, je lui ai montré mes mains, elles ne tremblaient pas. Et là, à ce moment-là, il m'a tendu le scalpel. Scalpel, d'ailleurs, que j'ai toujours. Je l'ai gardé, bien évidemment. Et il m'a tendu le scalpel. Et là, à ce moment-là, mon père ne pouvait pas bouger. S'il avait pu bouger, il m'aurait mis une baffe. Mais là, il tient les mains de mon fils, il ne peut pas bouger. Et là, il me regarde et il me fait... J'ai le scalpel dans les mains, je suis concentré. Et là, il me fait... À ce moment-là, j'ai fait la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu, Bemitzvotav, Vetzivanu ala Mila. Shlak! Et j'ai coupé. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Sauf que ma question est la suivante. Quand je dis Asher Kideshanu, Bemitzvotav, c'est parce que Dieu l'a ordonné à Abraham et à ses descendants? Ou parce que c'est mentionné dans notre paracha de Tazria? C'est toute la question de Napoléon. Est-ce que les mitzvot sont arrivés avec le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï, Moshe? Ou est-ce que les mitzvot, donc le rapport à Dieu, donc on va appeler ça en langage commun, même si on sait tous que c'est un langage erroné, mais on va appeler ça la religion, est-ce qu'elle est née avec Adam Arishon et les premières mitzvot que Adam a reçues? Les Ovda, les Shomra, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la question. Est-ce que la religion commence avec Adam ou avec Moshe? Est-ce que je suis tenu de faire la Brit Mila parce que Dieu l'a demandé à Abraham? Je parle de la Brit Mila parce que c'est dans notre paracha. Mais on pourrait poser la question, est-ce que je suis tenu de procréer parce qu'il y a marqué dans Bereshit à Adam et Chava pour vous? Ou parce que c'est marqué dans la Torah après, dans les livres de Vayikra et de Bamidbar? C'est toute la question. Eh bien, c'est une machloquette. C'est une machloquette entre le Rambam et Rabbeinu Saadia Gaon. Pour le Rambam, pas de problème. Quand on regarde ce que le Rambam dit dans l'introduction du Perusha Mishnah, dans son introduction du commentaire de la Mishnah du traité de Eruvin, eh bien, il nous dit que ce qui nous implique à nous, juifs, c'est ce que Moshe nous a dit. Si Moshe nous a dit de faire un truc, on le fait. Que Dieu ait dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov de faire des choses, c'est sympa pour eux, mais ça ne nous implique en rien. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu ce verset, ou bayom hashemini yimol et besar orlato, dans la paracha de Tazria, dans le livre de Vaikra, alors, eh bien, on n'aurait pas fait la Brit Mila. On n'aurait pas été tenu de le faire. Ça, c'est la vie du Rambam. Rabbeinu Saadia Gaon, lui, n'est pas du tout d'accord. Il dit que, au contraire, les mitzvot que Adam a reçus, que Noach a reçus, que Abraham a reçus, que Yaakov a reçus, eh bien, ça nous implique, nous, descendants de ces 10 personnages. Et Moshe n'a fait que rajouter des mitzvot en plus. Comme il peut y avoir une marloquette. Là où ça se corse, c'est que le Rambam, lui-même, va changer d'avis. Eh oui, il va changer d'avis dans son livre Moré à Nevuchim. Qu'est-ce que je raconte ? Dans Ilchot Melachim, le Rambam dit textuellement, comme Rabbeinu Saadia dans Emunot Vedeot, à savoir que Dieu a d'abord donné des mitzvot à d'autres personnages avant Moshe, et après Moshe, il est venu, il a complété les 613. Donc le Rambam s'auto-contredit. Vous allez me dire, pourquoi pas ? Entre le Perush HaMishnah et le Ilchot Melachim se sont écoulés près de 10 ans. Donc, il a pu changer d'avis. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que cette même machloquette, eh bien, vous la retrouverez à 2 paragraphes d'écart dans le même Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Et il est impensable que Rabbi Yehuda Halevi ait changé d'opinion entre 2 paragraphes. Pas possible. Donc, ça veut dire que ces 2 avis sont les avis du judaïsme. Est-ce qu'on doit faire la Brit Mila parce que Vaïkra ? Oui. Mais est-ce qu'on doit faire la Brit Mila parce qu'Abraham ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Halakhiquement parlant, effectivement, les mitzvot, c'est depuis Moshe. Point. Ce qui n'est pas donné par Moshe après, Zéou. Ce qui a été donné avant Moshe, c'est n'importe quoi. Ce qui a été donné avant Moshe et que ça n'a pas été repris par Moshe, terminé. Terminé, tout le monde descend. Par exemple, ben, à part pour l'année 2020, il y avait une halakha que Moshe a dit, mais qui n'était pas une halakha pour les générations, qui était le propre d'une halakha pour à un moment donné. Eh bien, Moshe a dit que pour faire le soir de Pessah, eh bien, on n'avait pas le droit, à l'époque de l'Égypte, de sortir de sa maison pendant toute la soirée du Seder. Bon, mais ce n'était pas pour l'éternité. Sauf pour l'année 2020 et le corona. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des guématriotes et machin pour dire que ce verset-là, c'était en fait, ça voulait dire 2020, un truc comme ça. J'imagine qu'il y a des gens qui ont dû faire ça. En tout cas, il semblerait qu'au niveau de la halakha, la Torah ne m'implique que à partir du moment où Moshe me l'a donné. Bon, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il y a avant ? Qu'est-ce que c'est que ces 26 générations ? Parce qu'il faut que je réponde à Napoléon, moi. Qu'est-ce que c'est que ces 26 générations qui ont précédé la Torah ? Peut-on se passer de la Torah ? Pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah directement à Adam ? Eh bien, la réponse est très simple. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous dit « Derech Eretz Kadma la Torah ». Il faut quelque chose pour pouvoir donner la Torah. Pour pouvoir donner la Torah, il faut une préparation morale. C'est pour ça que Adam n'a pas pu recevoir la Torah. Pas parce qu'on peut se passer de la Torah. Au contraire, on ne peut pas se passer de la Torah. Mais il lui faut une préparation. Si on donne la Torah à Adam, ça sera n'importe quoi. La génération de Adam, de Noach, de Abraham, ne peut pas recevoir la Torah. On n'y est pas prêt. Lorsqu'on arrive à la génération de Moshe, alors c'est le moment. La Torah a un cli qui peut la recevoir. Puisque le monde a évolué dans le bon sens, grâce à des géants de l'humanité qui ont fait avancer l'humanité moralement dans le bon sens. Je pense à des gens comme Hanor, je pense à des gens comme Metushelach, je pense à des gens comme Chet, je pense à des gens comme Noach, je pense à des gens comme, pas forcément que dans la Torah, comme Hammurabi, le roi babylonien qui a écrit le premier code de loi de l'époque d'Abraham, des grands personnages qui ont fait avancer la morale du monde à tel point que le monde a pu produire un Yitro dans la génération de Moshe, un Yov, des gens qui ont montré que le monde avait atteint une maturité morale pour pouvoir recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, d'après la halakha, eh bien, je ne suis pas tenu d'enseigner à mes enfants la Torah tant qu'ils ne sont pas bar et bat mitzvah. Ah oui, tant qu'ils ne sont pas bar bat mitzvah, bien sûr qu'on leur enseigne, mais c'est pour le chinour. Mais qu'est-ce que je suis tenu de leur enseigner vraiment? Eh bien, je dois leur enseigner derech eretz shekadma la Torah. Tout simplement. Et c'est, croyez-moi, beaucoup plus dur. Enfin, vous le savez mieux que moi. De toute façon, dans ce cours-là, j'ai tout à apprendre de vous et non pas l'inverse. Donc, vous le savez mieux que moi, apprendre à des enfants d'être des mensch, comme on dit en arabe, c'est quand même vachement plus dur que de leur apprendre à réciter une Mishnah par cœur. Bien sûr. Bien sûr. Donc, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, jusqu'au moment où l'homme, l'enfant devenant homme, c'est-à-dire étant capable de donner la vie, 12-13 ans, la bar mitzvah, bat mitzvah, c'est quoi? C'est la puberté. C'est-à-dire le moment où l'homme peut donner la vie. Eh bien, jusque-là, on doit lui former, on doit le former, c'est-à-dire à faire en sorte que la vie qu'il va pouvoir donner, ben, on va lui donner un véritable sens. Et voilà pourquoi, eh bien, Moshe revient sur cette mitzvah de Brit Mila dans notre paracha, alors qu'on l'avait déjà entendu, mais on l'avait entendu plus en tant que derech eretz, et là, on la reçoit en tant que mitzvah. Alors, une fois qu'on a parlé de cela, eh bien, ça nous amène à une autre question, évidemment, puisque pour qu'une femme ait un bébé à qui il va falloir faire la Brit Mila, ben avant ça, il faut qu'elle ait accouché. Eh oui, ridouche. Et là, arrivent toutes les lois sur la Touma liée à l'accouchement. Mais pourquoi? Pourquoi une personne qui accouche, une femme qui accouche, est tméa? Attention, je ne vais pas dire qu'elle est impure, parce qu'on n'aime pas les traductions ici. Mais ce n'est pas une connotation positive, la Touma. Alors que l'accouchement, c'est extraordinaire. Si on avait été chrétien, alors j'aurais compris, puisque les chrétiens pensent que tout acte sexuel est la résultante du péché originel. Donc, ils sont évidemment pas contents qu'une femme ait accouché. Mais nous, on n'est pas chrétiens. Nous, on pense que l'acte amoureux entre un homme et sa femme pour donner la vie, il n'y a rien de plus kodesh kodashim que ça. Et je vous renvoie au cours qu'on avait donné sur Shirashirim. Donc, c'est évident qu'il n'y a rien de mal à accoucher. Alors, comment ça se fait qu'elle est tméa? Eh bien, ici, il faut bien comprendre la dimension de ce que représente la Touma face à la Tahara. La Touma, sa définition la plus évidente, la plus simple et la plus profonde, c'est lorsqu'on est en contact avec un manque de vitalité. Lorsqu'il y a un manque de vie, ça s'appelle Touma. Et plus le manque de vie est grand, c'est-à-dire plus la vie est importante et elle est partie, plus la Touma est importante. En d'autres termes, il n'y a rien de plus vivant qu'un être humain qui vit. Donc le top du top de la Touma, c'est un homme avec un grand H, un homme, une femme, qui est mort. Le contact avec un mort, c'est le plus grand contact avec une absence de vie. Et toutes les autres formes de Touma sont des contacts avec un manque de vie. Lorsqu'une femme a ses règles, eh bien, c'est un potentiel de vie qui vient de la quitter, qui a été inutilisé, qui est mort. Il en va de même chez les garçons, d'ailleurs. Attention, ne croyez pas, ce n'est pas qu'une histoire de fille. Hein. Un homme qui aurait eu un rêve un petit peu olé olé et qui devrait changer les draps le matin, si vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas faire un dessin, eh bien, lui aussi, il est tamé. Puisque lui aussi, il y a eu un potentiel de vie qui est mort. Mais une femme qui accouche, Makara, Makara. Eh bien, très simplement, une femme qui accouche, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était doublement vivante. Elle était elle-même porteuse de sa vie, mais elle portait également une autre vie. Cette autre vie l'a quittée. Là où il y avait une deuxième vie, il n'y a plus qu'un espace vide. Il y a donc un contact avec un manque de vitalité. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une avéra, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est un fait. Alors vous direz-vous, mais alors comment ça se fait que si elle a accouché d'une fille, elle est encore plus tuméa? Comment ça elle est encore plus tuméa? Mais parce qu'une fille, c'est encore plus plein de potentiel de vie. Puisque la petite bébé-fille qu'elle a dans son ventre, elle-même deviendra une maman. C'est-à-dire qu'elle aussi portera la vie. Donc une femme est encore plus vivante qu'un homme. Bien évidemment. Et donc, bah là où il y a la perte de ce surplein de vie, eh bien il y a Touma. En d'autres termes, la Touma, si c'est le manque de vitalité, eh bien la Tahara, c'est le retour à la vie. Tout simplement. Et là, on nous dit quelque chose d'incroyable, parce que, ok, très bien, donc là, on a expliqué ce que c'était Tatouma, mais donc j'ai dit, dans ma avant-dernière phrase, que c'est pas une avéra, c'est très bien de donner naissance à quelqu'un. Alors, comment ça se fait que la femme doit apporter à ce moment-là un korban khatat? Elle doit apporter un korban ola, bien sûr, remerciement pour la vie qui vient de lui être offerte, extraordinaire. Mais alors, pourquoi un korban khatat? Pourquoi un sacrifice d'expiation? On a dit, il n'y a aucune faute à avoir un bébé. Au contraire, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors pourquoi un korban khatat? Eh bien, les amis, nos sages nous disent dans le Talmud, pourquoi un korban khatat? Eh bien, parce que lorsqu'elle est en train d'accoucher, eh bien, elle fait serment qu'elle n'ira plus avec son mari. Alors, elle n'y croit pas forcément, elle ne le pense pas forcément, mais comme... elle a fait serment, alors on lui demande de faire un korban khatat. La question c'est, est-ce que il s'agit ici simplement des douleurs de l'accouchement? Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de péridurale. Ben non. Et donc s'il n'y a pas de péridurale, alors je ne suis pas une fille, je n'ai jamais accouché, mais ma femme a décidé que les deux derniers accouchements, pour l'instant, se feraient sans péridurale. Donc je peux te dire que je l'ai entendu crier même quand j'étais pas juste à côté d'elle. Je peux t'assurer que ça avait l'air de pas faire du bien. Donc, si ce n'est qu'une histoire de péridurale, ça marche pas. Ce n'est pas qu'une histoire de péridurale. Bien sûr que lorsque tu accouches et que tu as pas ce qui te calme, ça fait très mal. Et donc peut-être que c'est cette douleur-là qui va te faire te dire, toi tu t'approcheras plus jamais de moi. Mais c'est pas qu'une histoire de douleur. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a Et je me tourne vers les sages-femmes et autres aides sages-femmes qui font de leur journée un moment de kdoucha énorme quand elles aident les bébés à venir au monde. Je ne sais pas si tu es là, Evelyne, avec nous en ce moment. Mais en tout cas, il y a un concept qui a été théorisé, qui est maintenant bien connu, qui s'appelle le baby blues. Le baby blues. Mais le baby blues, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et ce n'est pas uniquement un problème de douleur physique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi une femme, des fois pas toutes hein, évidemment, mais a ce blues de l'après-léda, de l'après-naissance, qui pourrait l'amener à dire « je ne veux plus être dans cette situation-là » Eh bien tout simplement, lorsqu'on y réfléchit un tout petit peu, eh bien quand elle était enceinte, elle représentait l'avenir. Elle était l'avenir perpétuel qui avance. Dès qu'elle marchait, dès qu'elle avançait, elle rentrait dans le bus, tout le monde se levait pour elle. Tout le monde lui disait « Oh, Shatova, Shatova, Shatova ». Tout le monde était concentré sur elle. Elle était l'avenir. Maintenant qu'elle a accouché, elle est le passé. L'avenir est dans le berceau. Elle pourra redevenir l'avenir, bien sûr, mais pour l'instant, elle se voit comme étant le passé. Il va falloir justement, par ce korban qu'elle va amener au Beth Amikdash, comprendre qu'elle peut redevenir avenir à tout moment. En d'autres termes, la femme, lorsqu'elle amène son korban après avoir donné naissance à son enfant, eh bien, elle revient tout simplement en pleine possession de ses moyens et elle redevient celle qui va pouvoir réamener l'avenir dans le peuple juif et dans le monde entier. Alors voilà. Elle a donné naissance, Brit Mila, à Kol Tov Veyafé. Et donc, on a commencé cette paracha par cette Touma'ala, puisque c'est une Touma Bigdusha. C'est une Touma qui est liée à un acte de sainteté. On va dire, c'est une bonne Touma. C'est une Touma qui est liée à quelque chose de bien. Mais il peut y avoir également des Toumot qui sont liées à des Kilkoulim, qui sont liées à des chutes morales, à des chutes spirituelles, ou à des chutes physiques. On a dit, je peux être en contact avec la Touma, mais que ce ne soit pas bien. Alors, il y a des fois où c'est très bien, j'ai dit, on parle de l'accouchement. Quand je vais à une levaya, quand je vais porter et faire la tahara d'un mort, je suis tamé effectivement, mais c'est une mitzvah incommensurable. Donc ça rentre dans le critère de ça, c'est pour de bonnes raisons. Mais il y a des fois où j'ai pas fait attention, je me suis assis par terre, j'ai pas fait attention, et là où je me suis assis, il y avait un lézard mort. Bah, tout moi. Moins grande qu'avec un être humain, bien sûr, mais tout moi quand même. Bah, j'aurais dû faire attention. Et puis il y a des fois où c'est même pas j'aurais dû faire attention, mais il y a des fois où c'est malheureusement volontairement presque que je fais quelque chose qui amène la touma. Chazal vont nous dire que de manière générale, même s'il peut y avoir 11 cas qui amèneront la tsara'at, la lèpre, qui est annonciatrice de cette touma, qu'on va voir tous les détails dans la paracha, eh bien nos sages vont nous dire que quand même, le truc le plus connu, si on veut, de la tsara'at, c'est à cause du lashon hara. Quand tu parles mal de ton prochain, de qui que ce soit, quand tu utilises ce kli qui s'appelle la parole, qui est le kli, l'ustensile que Dieu a utilisé pour créer le monde, et toi tu l'utilises pour les calquels et ta olam, Nora. Nora. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tsarat. Tsarat comment? Eh bien, on voit que ta peau, c'est la peau qui est attaquée. La main. Pourquoi est-ce que ce n'est pas, je sais pas moi, un ulcère à l'estomac? Pourquoi est-ce que c'est la peau? Eh bien, tout simplement parce que la peau, c'est ton contact avec l'extérieur. Nahon. On avait déjà parlé de ça quand on avait parlé des habits du Kohen Gadol. D'après le judaïsme, l'habit fait le moine. Et là, c'est pas seulement l'habit en mode habit, mais c'est gam, agouf, betor levouch chez la neshama. Notre corps, c'est l'habit de notre âme. Avec notre corps, on peut dévoiler notre âme de manière extraordinaire, ou alors on peut lui faire écran de manière fantastique. Lorsqu'on parle mal, la parole étant l'œuvre le plus créateur qu'il soit, et effectivement, dans nos vies au quotidien, on doit se rendre compte à quel point la parole est créatrice. Quand tu ouvres les yeux le matin, si la première chose que tu entends de quelqu'un, ta femme, ton mari, ton fils, tes parents, l'homme chané, tes amis, imagine-toi, la première chose que tu entends dans la journée, c'est « Oula, t'es une petite mine, toi !» Et ça, c'est encore sympa, hein. Ou alors « Oula, 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 qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui !» Ou alors « Ah, je peux pas te voir !» Je peux t'assurer que ça va influer toute ta journée. Toute ta journée. La parole est créatrice, c'est évident. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce que tout bon magicien sait. Tout bon magicien sait bien que la parole est créatrice. Puisque qu'est-ce qu'on dit comme formule magique pour créer? Ah oui, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on dit comme formule magique? Allez, les adeptes d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'on dit pour la formule? T'amènes un magicien dans une fête d'anniversaire. Nounou. J'ai plus personne. J'ai 34 personnes qui me regardent, mais personne ne peut me dire la formule magique. Dites-moi ma formule magique. Bon, je vois que vous n'êtes pas porté sur la magie. Alors, je vais vous le dire moi. La formule magique, c'est merci. Merci. Alors, tu vois, il y a Yaron et il y a Alex. Yaron, il est sympa. Il me dit ce que j'ai envie qu'il dise. Et il y a Alex, il fait le Talmid Chacham. Ça ne va pas du tout. Le Talmid Chacham, ça vient après. Alors d'abord, on dit pas Talmid Chacham qui en fait en est un, mais qui fait semblant de ne pas l'être. Donc, Yaron nous dit effectivement, abracadabra, bien sûr, sauf que effectivement, abracadabra, ça vient de cette formule en araméen qui dit, hadabra, abracadabra, en fait, ou bara kedabra. Il a créé par la parole. Effectivement, la parole est créatrice. Donc, quand toi, tu pars en cacahuète avec ta parole, ben, sois pas étonné que ton contact avec l'extérieur, ce qui fait le lien entre ton intériorité la plus profonde et l'extériorité, soit ben, touché. Et donc, je comprends que si je fais un truc pas bien, une parole pourrie, eh bien, j'ai une tache blanche quelque part. Top. Attention, temps mort. La tsaraat de la Torah, ce n'est pas le psoriasis d'aujourd'hui. Ce n'est pas non plus d'autres maladies de peau. Non, venez pas me dire demain, je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu que là, au niveau des cheveux, j'avais un peu de, j'avais d'énormes plaques blanches, des pellicules, ça veut dire que j'ai du lashon hara. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, j'en sais rien, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, a priori, ce n'est pas ça. Ok ? A priori, ce n'est pas ça. Le stress amène souvent ce genre de choses et en ce moment, bah, tout le monde est stressé, donc tout va bien. Enfin, t'inquiète pas. En tout cas, la tsarat de la Torah, on nous dit que t'as fait un truc pas bien, boum, une partie de la peau qui est toute blanche. T'as fait deux trucs pas bien, t'as deux parties de la peau qui sont toutes blanches. Trois trucs pas bien, trois parties de la peau. Bon, ça va, je vais pas toutes les faire. Seulement, eh bien, on arrive tout d'un coup à quelque chose de très très bizarre. On arrive toujours à quelque chose de très très bizarre parce qu'on arrive tout d'un coup à un verset, le verset Yud Gimel du Perek Yud Gimel, qui nous dit, donc si tu as fait un truc et de plus en plus, ça t'est de plus en plus tanné, seulement on te dit, Veim kulo afar lavan, taorou. Si on voit quelqu'un qui est tout blanc, ça y est complètement lépreux, tout blanc, taor. Attends. S'il est tout blanc, c'est qu'il est tout pourri. Alors pourquoi tu me dis que s'il est tout pourri, il est taor? Mais c'est pas possible, cette histoire. Ben si. Nous dit le Rav Kook. J'explique le Rav Kook une notion fondamentale, mais véritablement fondamentale. J'explique le Rav Kook la chose suivante. Qu'il y a une différence entre l'intériorité et l'extériorité. Et qu'à partir du moment où tu vois chez quelqu'un une tache blanche, deux taches blanches, trois taches blanches, cinq taches blanches, 99% de son corps, tache blanche, mais tu vois là le bout du nez qui n'est encore pas tache blanche, eh bien ce bout du nez prouve qu'il peut, de par ses actions et son contact conscient avec l'extérieur, il peut, ouais, faut être Ashkenaz pour être pur, t'as tout compris. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, lorsqu'il a son petit bout du nez, qui est encore blanc, pas blanc, c'est grave, tu m'as embrouillé, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il montre par ce petit bout du nez qu'il peut être bien. Ça peut le faire. C'est-à-dire que son petit bout du nez qui est encore bécédère accuse toutes les autres parties blanches. Va nous dire le Rav Kook dans Grotte Réia, que s'il est kulo afar lavan, il n'y a plus rien qui n'est pas blanc. Eh bien, cela veut dire qu'à ce moment-là, il ne faut plus regarder l'extériorité, mais il faut regarder l'intériorité. Exactement. Si tout le dehors est pourri, c'est que quelque part, c'est une volonté du Créateur que tu t'intéresses plus à ce moment-là à dehors, mais que tu commences à te réintéresser vraiment à dedans. Et oui, c'est ce qui va amener l'expression de Rabbi Yehoshua dans le Talmud, qui nous dit que la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah. Certes, Rabbi Eliezer dira que la Géoula dépend de la Teshuvah, mais ce n'est pas l'avis de Rabbi Yehoshua, et nous savons que la Halakha, elle est comme Rabbi Yehoshua. En d'autres termes, lorsque nous sommes dans la génération de la Géoula, alors, il semblerait que ce n'est plus le moment de regarder si extérieurement la personne qui amène cette Géoula, eh bien, elle est Tahor, mais il est temps de se concentrer sur son intériorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, eh bien, le Zohar sera repris dans le Mahamar Hador du Rav Kook. Le Zohar nous dit que la génération de la Géoula sera ce qu'on appelle Bish Milbar Vetav Milgo. Sera Bish Milbar, dur à l'extérieur, Vetav Milgo, et bon à l'intérieur. Dur et épineux à l'extérieur, et doux et bon à l'intérieur. Ouais. La génération de la Géoula. La Géoula. Attends. 2 secondes. Je vais essayer de faire 1 plus 1 plus 1. Ça fait 2. 2 secondes. La Géoula nous dit, donc ici, le Sefer HaZohar, que c'est une génération qui est comparable à des gens qui sont durs et piquants à l'extérieur et bons et doux à l'intérieur. D'un autre côté, le Talmud dans Sanhedrin nous dit que la génération de la Géoula, pour comprendre qu'elle arrive, il faut voir que la terre d'Israël redonne des fruits. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je trouve, pour que la comparaison soit totale, que la génération de la Géoula est comparée à un fruit qui serait dur et piquant à l'extérieur et bon et doux à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Nachon, zat sabar, l'israélos, le tsabar, le sabra. Eh oui, le tsabar. Le tsabar, eh bien, c'est celui qui est dur et piquant à l'extérieur, mais qui est doux à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai entendu ce vort, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que ça me venait du Rav Yoel Ben Arouche d'il y a 16 ans, que le Rav Ben Arouche nous avait dit que Bechutz Laaretz, Am Israël, il s'appelle Tzibour. Tzibour, ça veut dire, c'est les initiales de Tzadikim, Benonim ou Rechaim. Pourquoi ? Tzadikim, Benonim, les moites-moites, et Ou Rechaim et les Rechaim. Mais je crois que le Rav Ben Arouche avait dit qu'il faut le Vav pour le rattacher, la conjonction de coordination. Il faut je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, je dis peut-être n'importe quoi. Enfin, le Vav, quoi, mais qui rattache. Parce qu'il faut que le rachat soit rattaché au reste du peuple, parce que sinon il va s'assimiler. Nachon. Aval, quand on est en Eretz Israël, même le rachat, il est avec nous. Donc on n'a plus besoin du Vav. Et donc de Tzibour, ça devient un Tzabar. Nachon. Donc, ça veut dire que la génération de la Géoula, c'est une génération qui, de l'extérieur, semble être une génération qui est en train de rejeter toute la Torah. Imaginez-vous, ceux qui ont construit la terre d'Israël, ils faisaient plus Shabbos, ils mangeaient les Veilis Vetreifes, Shomu Shomaim, Boyd Shloilem. Et pourtant, ce sont eux qui ont emmené la floraison de la terre d'Israël. Ce sont eux qui ont emmené la réalisation de la promesse des prophètes. Comment est-ce possible ? Eh bien, vous savez, il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Hillel Zeitlin. Et le Rav Hillel Zeitlin, il est venu faire un tioul en Eretz Israël au début du siècle, du XXe siècle. Il a écrit un livre qui raconte son voyage en Israël qui s'appelait Sifran Shel Yechidim. Le livre des individus isolés. Et il raconte là-bas qu'il a eu, quand il est arrivé en Israël, il était émerveillé de tout ce qu'il voyait. Il a vu les moshavot, il a vu les gens qui travaillaient la terre, il était émerveillé. Il a eu un rendez-vous avec une des deux grandes autorités. Il y avait deux grandes autorités en Israël rabbinique, et l'un des deux, c'était le Rav Chaim Zonnenfeld, qui va être le chef de ce qui va devenir les mouvements Peleg HaYerushalmi, très très anti-sioniste. Et le Rav Chaim Zonnenfeld, donc, il l'a reçu. Et donc, le Rav Zeitlin lui dit, c'est extraordinaire, j'ai vu des choses incroyables en Israël. Et il commence à lui énumérer toutes les choses qu'il a vues qui ne sont pas bien. Et là, le Rav Zonnenfeld lui dit, à chaque chose qu'il dit que c'était bien, il dit que c'était pourri. Il regarde ces pionniers, tous des réchoïms, ils ne mangent pas kasher, ils ne font pas shabbos. Et à chaque fois qu'il citait un truc, le Rav Zonnenfeld le démontait. Si bien qu'il est rentré avec une banane comme ça, il est redescendu avec la banane à l'envers. Et bon, après, l'après-midi, il avait un rendez-vous avec la deuxième autorité du pays. Il s'appelait le Rav Kook. Et donc, il arrive dans le bureau du Rav Kook, il dit « Je me suis baladé en Israël, c'est terrible !» Et il ressort toute la liste des arguments du Rav Zonnenfeld. Et à ce moment-là, le Rav lui répond, le Rav Kook lui répond, que, en fait, il lui redonne tous les arguments que lui-même, le Rav Zaitlin, avait avant de rentrer dans le bureau de Rav Zonenfeld. Et il lui explique cette dimension que la génération de la Géoula, effectivement, elle est « Mibachutz kulo afach lavan ». Mais nous dit la Torah « Im kulo afach lavan », ça veut dire qu'il faut que tu regardes à l'intérieur. Et à l'intérieur, « Taor hu ». En d'autres termes, nous sommes à quelques jours, à une semaine de Yom HaAtzmaout. Eh bien, nous devons nous rendre compte de la grandeur de notre génération. La grandeur de ces hommes qui ont dit « On y va ». On y va. On va créer l'État d'Israël. Je parle depuis les premières aliotes, je ne parle pas forcément que de 48. Ces gens qui ont pris le pas de venir. Alors, ramenons les choses dans leur contexte et dans l'histoire. À Botaï, les premiers qui reviennent en Israël reviennent parce que ce sont des tzadikim. Que ce soit l'alia des talmidim, des élèves du Gaon de Vilna, ou les élèves du Baal Shem Tov, ce sont des tzadikim qui viennent par l'appel de la Torah. Que ce soit les gens de la première alia, ce sont également des tzadikim. La première alia, c'est que des mecs avec des pères qui viennent. Ah, il faut le savoir. 1882, Mikvé Israël, c'est que des barbes. Non, parce qu'on croit toujours que l'alia sionisme, machin, c'est que des chilonim. Ça viendra à partir de la deuxième alia. La première alia de 1882, c'est que des religieux. Et Kitsour, mais ceux qui vont réussir concrètement à faire passer le sionisme à une nouvelle étape et à un état, eh bien, ça va être ceux qui vont venir sans pratiquer la Torah. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus parce que c'est Dieu qui leur a dit dans la Torah. Ils sont venus parce qu'ils l'ont senti. Tu sais où ? Dans leur foi, dans les kishkes, comme on dit en arabe. Et donc, ils sont venus. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'arriver à une dimension fondamentale de notre seconde paracha. La paracha de Metzora, on continue en fait, les halachot, toutes les halachot de la Touma, Tahara, on a parlé de l'accouchement tout à l'heure, qui apparaît dans la paracha. Et j'ai dit que la Touma, c'était lorsqu'on est en contact avec un manque de vie. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a une deuxième dimension de la Touma. Une deuxième dimension, un deuxième sens qui va faire que tu es tamé. C'est quoi ? Ce n'est pas seulement lorsque tu es en contact avec la mort, mais c'est également, quelque part c'est lié, vous allez voir, mais c'est également lorsque tu es en contact avec une dimension qui n'est pas la tienne. Une dimension qui n'est pas de ton niveau. Je prends un exemple tout simple, un exemple bateau. Moi, tu veux me faire kiffer, je ne suis pas difficile. Tu me mets une bonne entrecôte bien saignante, mais un bon truc, hein, tu vois, un minimum 300 grammes, parce que sinon on ne parle pas. Hein. Une bonne entrecôte, un truc, qui a été cuisiné al pi alouche, mamash al pi alacha, par Philippe Etchebest, mais al pi alkashrout. C'est toi qui as allumé le feu, machin, ce que tu veux. Tu me fais kiffer, avec un petit jus et tout, c'est... Voilà, une petite réduction de sauce de bœuf, tu me fais kiffer. Avale cette même pièce de viande magnifique. Tu la donnes à un bébé, ça va le tuer. Je suis encore, excusez-moi, je suis encore dans mon Yom HaShoah. Un Ashkenaz, il a toujours besoin de plus de temps pour sortir de Yom HaShoah. Je suis encore dans mon Yom HaShoah. Et j'ai raconté à mes enfants histoire incroyable. Alors, j'aurais pu leur raconter ça au nom de ma grand-mère, mais je leur avais parlé beaucoup de ma grand-mère pendant Yom HaShoah, donc j'ai décidé de leur parler du grand-père de ma femme, qui lui aussi est rescapé de Auschwitz, Nachum Ben Sira. Nachum Ben Sira, d'ailleurs, entre parenthèses, le grand-père de ma femme, une personne incroyable, non seulement rescapé des camps, mais en plus, un des quatre rescapés du massacre de Kfar Etzion de 1948. Eh oui, la veille de la création d'État d'Israël, il y a la chute de Kfar Etzion. Et il est un des quatre survivants du massacre de Kfar Etzion. Ah non, pas n'importe quoi, le bonhomme. Et donc, Nahum ben Sira m'avait raconté une fois, quand on avait été chez eux un Shabbat, après mon mariage, il nous avait raconté son parcours et sa sorte, enfin, sa Shoah à lui. Et il raconte quelque chose qui n'est pas un secret, c'est pas... Enfin, beaucoup de gens ont raconté cela. Que lorsque finalement, les Américains sont arrivés et ont libéré le camp où il était, eh bien, tout de suite, ils ont donné leur ration de nourriture aux déportés. Ils les ont vus avec la peau sur les os, ils ont eu pitié, et ils voulaient faire un beau geste, et ils leur ont donné leur ration. Alors, dans les rations de survie des soldats américains, il y avait du chocolat, il y avait du pâté, il y avait des trucs bien graves qui te tiennent bien au ventre, comme ça, quand tu n'as pas besoin d'en manger beaucoup pour avoir des forces. Et les gens ont pris ça, et ils étaient très heureux, ils ont commencé à manger. Et au bout de quelques minutes, les gens, ils mangeaient, et puis en même temps, ils s'effondraient, ils mouraient. Jusqu'à ce qu'un... Je ne sais pas s'il était médecin ou s'il était juste infirmier dans l'unité de l'armée américaine, il a compris. Et il a ordonné à tous les soldats de reprendre la nourriture de la main des déportés. Parce qu'il disait, mais ils n'ont plus d'estomac, ils sont capables de gérer une nourriture aussi, gros, aussi grasse, aussi riche. Et donc, ils implosent de l'intérieur. Le grand-père de ma femme, il raconte que lui, il a caché une boîte de pâté gras comme ça. Et il dit que ce qui l'a fait survivre, c'est son autodiscipline qu'il faisait avec la boîte de pâté. Il l'avait ouverte et il faisait comme ça une fois toutes les 6 heures. Il léchait un petit coup la boîte une fois toutes les 6 heures pour ne pas en prendre trop. C'est-à-dire, dès que tu goûtes à quelque chose qui n'est pas de ton domaine, ben quelque part, ça peut amener la mort. Et une chose est sûre, ça amènera la tzaraat. Un exemple de cela, on peut le trouver dans le Tanakh. Dans le Tanakh, eh bien, dans le livre de Melachim, on va voir le cas de Uziyahu Melech Yehuda. Uziyahu, c'est un tzaddik. Ce n'est pas un roi rachat. C'est un roi tzaddik. Il est tellement tzaddik qu'il décide qu'il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu au top du top et il veut amener des encens, Ktoret, Lifnaï et Lifnim, dans le Kodesh HaKodashim. Et il se prépare et tout machin, il y va, et quand il arrive au Beth Amikdash, les Kohanim lui disent, non, c'est pas toi ça. Toi tu es le roi, mais le boulot de rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec la Ktoret, c'est le Kohen Gadol, le Yom HaKippurim, c'est pas toi. C'est lo shelcha, c'est lo olam shelcha, c'est pas ton niveau. C'est un autre niveau. Et Uziyahu, il dit, m'en fous, j'y vais quand même. Et il y va quand même. Et le Tanakh nous dit que quand il est ressorti du Kodesh HaKodashim, parcha tzarat b'mitzro, il a eu la tzarat en plein milieu de la tête, dans le front, et elle ne lui a pas quitté jusqu'à la fin de sa vie. Il a été obligé. Il était le roi d'Israël et il gouvernait depuis l'extérieur de Jérusalem dans le camp des lépreux. Alors, un lépreux normal, il rentrait au bout de 7 jours dans sa maison, mais lui, il est resté là-bas jusqu'à la fin de sa vie. En d'autres termes, nous dit la Torah, lorsque tu essayes d'être qui tu n'es pas, ou lorsque tu aspires à être qui tu n'es pas, ou à être celui que l'autre il est, alors que c'est l'autre, c'est pas toi. Zemevil, au final, pas seulement le Touma, mais le Mavet. C'est ça qui amène à la mort, ne serait-ce que la mort de l'âme. Et oui, tu dois apprendre que tu es là pour avoir un rôle, ne cherche pas à avoir le rôle de l'autre. Mais la paracha de Metzora va nous dire aussi quelque chose d'assez incroyable. Elle nous dit que lorsque le processus de la tzaraat, le processus donc de cette histoire de lèpre, ne commence pas, dans la paracha de Tazria, on aurait pu penser que ça commence directement par la peau. Alors que finalement, eh bien, la paracha de Metzora nous dit non, ça commence d'abord par la maison. Premier coup de semonce, dans ta maison, tu as un mur où il y a une grosse tache au mur, toute moche, toute blanche, toute laide. Après, les habits et après seulement toi. Pourquoi est-ce que ça commence par la maison? La maison, c'est ton domaine, c'est ton monde à toi. S'il y a un qu'il coule, ça commencera par là. Seulement à ce moment-là, on a un grand principe. Il y a un klal dans la halakha qui nous dit la chose suivante. J'ai une tache sur le mur. Est-ce que c'est Sarat ou est-ce que c'est de la moisissure due à l'hiver en Israël où on ne sait pas construire des maisons comme il faut? Je ne sais pas. Qui va déterminer? Eh bien, le Cohen, le Mumché de Sarat. Donc, j'appelle le Cohen et il vient voir chez moi. Et c'est lui qui va me décréter est-ce que c'est une tâche de Tsarat ou est-ce que c'est une tâche de ton Kablan qui n'a pas bien bossé? Touma, pas Touma. Top. Justement, pour voir la couleur de la tâche qui va déterminer, il faut que la maison soit bien, bien éclairée. Et la halakha, le pasouk, qui devient une halakha, nous dit que s'il y a une bait afel, une maison sombre, c'est-à-dire on ne voit pas, il n'y a pas une lumière énorme, en potrim bo chalonot livdok nigo. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, une tâche. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais mes volets sont fermés. Lorsque j'appelle le Cohen, on n'a pas le droit d'ouvrir les volets pour faire rentrer de la lumière et vérifier. Une maison comme ça, on dit, c'est sûr que c'est Bessel. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend quelque chose de fondamental. Quand tu vis ta vie dans les projecteurs, ben on va venir vérifier qui tu es. C'est pas forcément mauvais, je ne dis pas il faut absolument vivre dans l'ombre et tout machin. C'est pas forcément mauvais de vivre dans les projecteurs. Mais sache que si tu vis dans la lumière, botke motra, on vérifie tous tes faits et gestes. Alors que si tu vis pas dans la lumière, eh ben on vérifie pas tes faits et gestes. C'est pas choupe la vine. Je n'arrive pas à comprendre ces gens qui refusent, ces célébrités qui refusent de signer des autographes, de se faire prendre en photo, machin. Mais toute leur notoriété, elle vient du fait qu'ils aiment se faire voir des autres. Alors quand les autres, qui sont à mon avis un petit peu idiots, je ne vois pas l'intérêt de demander un autographe d'un acteur ou quoi que ce soit, je vois pas l'intérêt. Wouhou, j'ai eu sa signature, oulala. Mais si déjà il veut, donne-lui! S'il ne te regarde pas, tu n'existes pas! Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai rencontré le Rav Cherki, Befuchs, dans la rue. Et je lui ai dit, Rav, ah, shalom. Je lui ai dit, Rav, je suis chez Rav Char. Ah non, excusez-moi. Je lui ai dit, Rav, anima fria. Et il m'a dit, évidemment. Évidemment que tu m'effrayes. Évidemment que tu me déranges. Je ne vis pas toute ma vie à ne rien faire et à attendre que Pitom Ethan arrive devant moi et qu'il me pose une question. Oui, non, j'ai des choses à faire. Mais en même temps, si je n'avais pas voulu être dérangé par les gens pour répondre à leurs questions, je ne serais pas devenu rabbin. Donc, oui, tu me déranges, mais c'est Seder. Alors, vas-y, pose ta question. C'est-à-dire, tu ne vas pas être un homme qui a une stature publique et refuser que le public qui vient te voir et te demande des choses et te vérifie tes gestes. En mala asot. Quelqu'un de connu qui fait une boulette, bah c'est normal qu'il prenne plus que quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Et c'est ce que la Torah veut nous dire. Bait afel, lo potrim bot halonot livdok nigo. Et une fois qu'on a compris tout cela, eh bien on peut comprendre qu'il faut une seule chose. Ne pas avoir peur d'avancer. Parce que toute la paracha de la Tsarat, Potazia et Metzora auraient pu te faire perdre l'envie de faire des choses. Alors viens, je ferme mes fenêtres et puis voilà, je fais rien. Comme ça, au moins, tout ira bien. Non. Nachon, c'est plus dur d'être dans la lumière, mais c'est mieux. Nachon, c'est plus difficile de faire des choses parce que tu risques de te planter. C'est sûr que celui qui ne fait jamais rien, mais ne fait jamais d'erreur. Mais c'est mieux de faire des choses. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit ces deux parashiot ensemble, Tazria et Metzora, eh bien la Haftara sera la Haftara de Metzora. Et dans la Haftara de Metzora, eh bien on nous raconte une histoire incroyable. Incroyable. Et je terminerai par cette histoire. Dans la Haftara de Metzora, on nous raconte, alors je vous passe tout le contexte, il y a une famine terrible, Bashomron. Famine terrible à Shomron, parce qu'il y a un siège c'est la guerre. Et l'État d'Israël du Nord, on est à l'époque où il y a deux États, Israël et Yehuda, eh bien, tout va mal. Tout va mal. Et là, donc, à ce moment-là, puisque tout va mal, ben, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. À ce moment-là, le roi d'Israël, Slicha, va venir voir le prophète Elisha. Il lui dit, fais quelque chose! C'est de ta faute! C'est pas toujours comme ça, c'est toujours la faute du rabbin. C'est de ta faute! Et Elisha, un avis, lui dit, à lui et à toute sa cour, Tadama, tu verras. Demain. Demain! Il y aura tellement à manger! Tellement à manger! Que, alors, il y a une mesure qui est donnée dans le Tanakh, qui est de l'époque, on va dire, si on le traduit en français d'aujourd'hui, on vendra 100 kilos de blé pour un shekel. Tellement il y aura à manger. Ça va, un avis au maire, demain, il y aura jusque-là à manger. Et d'un coup, le Tanakh nous raconte qu'arrive à Shalish. À Shalish, c'est le numéro 3 du gouvernement, à Shlishi. Donc, je sais pas, ministre de l'économie, Sarah Otsar, je sais pas qui est le troisième dans le gouvernement aujourd'hui. Le troisième, le Shalish, nous dit la Torah, il vient et il dit, ah, n'importe quoi. Quoi, Dieu, il va faire ça? Ah, il y croit pas. Et Elisha lui dit, ah bon, t'y crois pas? Ah bon? Eh ben, tu sais quoi? À t'attirer, mais tu pourras pas en profiter. Tu vas voir que ça va se réaliser, ce que j'ai dit, mais tu ne pourras pas en profiter. Le lendemain, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant la nuit, il y a 4 lépreux qui avaient rien à manger, qui avaient faim, qui ont vu qu'il y avait le camp de Aram de l'autre côté qui faisait le siège des Juifs. Ils se sont dit, on va quand même aller voir. On va peut-être essayer de trouver un truc, machin, c'est au péril de notre vie, mais on peut pas. Ils sont entrés dans le camp, ils ont trouvé le camp désert. Il y a eu une maguefa que Dieu a envoyée, une espèce de corona suprapuissant. Et tous les Araméens ont détalé. Ils ont fui, Pachout. Et ils ont fui tellement vite qu'ils ont laissé sur place toutes leurs affaires. Et donc, dans le camp, il y avait toute l'intendance d'une armée en siège. Des quantités astronomiques de bouffe. Et ces 4 Motsoraïm, ils ont mangé. Et puis finalement, ils ont été, au petit matin, ils ont été le dire au roi d'Israël. Et donc, ça a été la ruée vers l'or, enfin, la ruée vers le blé. Et les gens, tout le peuple est sorti de la porte de la ville en masse. Le Shalish était là. Il a tout vu. Il a vu les quantités astronomiques de nourriture. Il a vu tout le monde sortir. Et il a été pris dans la foule. Et il a été piétiné par la foule. Il en est mort. Là-dessus, va venir un des grands rabbins de Tzfat, de l'époque du Harizal, de Rabbi Yosef Karo. Un des grands, grands, grands bonhommes qui s'appelle Rabbi Eliezer Askari. Et Rabbi Eliezer Askari, qui écrit un livre qui s'appelle Sefer Charedim, il explique là-bas dans son livre c'était quoi la faute du Shalish? Est-ce que la faute du Shalish, c'était de ne pas avoir la Emouna en Dieu? De penser que Dieu était incapable d'amener autant de nourriture? Il dit bien sûr que non. Il sait très bien que Dieu il peut faire des miracles comme ça, le voie sur la mer rouge, machin. Ce que le Shalish ne croyait pas, c'est que comment, pour un peuple aussi pourri, parce que oui, à l'époque, où les événements se passent, Am Israël, Oved Avodazara, Oulo, Setov, Oulo, Machou, Machou. Et le Shalish, il dit, bien sûr que Dieu, il fait des miracles, c'est pas ça le problème. Et je dis, mais pour des gens comme ça, qui ont abandonné la Torah et les mitzvot, Dieu, il va leur faire à eux des miracles? Ma pitom! On dit, Rabbi Eliezer Askari, c'était ça la faute du Shalish. De penser que Dieu ne va pas aider le peuple juif parce qu'il n'est pas assez tzadik. Rappelle-toi, la Géoula, c'est Bishmil Bar, Vetav Milgo. Tu peux pas regarder à l'extérieur et voir. Et c'était exactement ce genre d'arguments qui ont été amenés en 1948 par certaines sommités rabbiniques. Qui ont dit comment Akadosh Baruch Hu va amener la Géoula par des gens comme ça, par Ben Gurion. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ata tiré, va talotochal. Tu vas voir que ça va marcher. Et Oulaï est à l'autochal. Et tu verras que peut-être tu ne vas pas réussir à en profiter. Mais tu vas voir à quel point tu as eu tort. Et Akadosh Baruch Hu, ben, a fait ça. Am Israël a avancé. Am Israël a eu foi dans son foi. A eu cette foi inébranlable dans ses kishkes. Il appelait pas ça mitzvat Hashem. Il appelait ça yala, le ressenti qu'Am Israël, il doit recréer son pays. Et il a recréé son pays. Et non seulement il a recréé son pays, mais il a réussi. Et Akadosh Baruch Hu l'a aidé là-dedans, évidemment. Toutes les guerres qu'on a gagnées, tout ce qu'on a réussi à faire en 70 ans, un peu plus, on n'aurait jamais réussi sans l'aide indéfectible de celui qui a dit « c'est pas l'extérieur qu'il faut regarder, c'est l'intérieur qu'il faut regarder ». Eh bien voilà, il y a des gens qui encore aujourd'hui pensent que Dieu n'est pas derrière tout ça. Eh bien ces gens-là, ils ressemblent malheureusement au chaliche qui ne veut pas croire que si le peuple juif ne ressemble pas à ceux qui pensent qu'il devrait ressembler, alors il ne peut pas y avoir la Géoula. Bien les amis, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Et il y a maintenant, dans une semaine, 73 ans, eh bien, il a décidé tout simplement d'amener la Géoula. Et cette Géoula qui a commencé, eh bien, va aller en grandissant. Et on ne fait que passer des étapes pour finalement arriver à la Géoula Shlema. Le Corona est évidemment une étape vers cette Ashlamat Ageoula, et on n'a plus qu'à espérer que cette étape se termine rapidement et qu'on puisse eh ben, passer à l'étape supérieure, à l'étape qui c'est construction Beth Amikdash, à l'étape où les Juifs qui sont encore en France eh bien, auront compris que leur place n'est plus en France, que ceux qui sont aux États-Unis auront compris que leur place n'est plus aux États-Unis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensemble, eh bien, on va pouvoir réussir à la Ashlim, cette Geoula, pour finalement arriver à Avayi Bayom Hashemini, Yimol et Bessar Orlato, pour arriver au huitième jour, pas le huitième jour du petit bébé qui vient de naître, mais au huitième jour du Ham Israël qui rentre et fait passer le monde dans le huitième jour de la création. Et à ce moment-là, on entendra une voix sortir du ciel qui dira Vayar Elohim Kitov, Vayi Erev, Vayi Voker Yom Hashemini. On terminera l'histoire et on passera dans une autre étape, mais ça, on verra quand on y sera. À bientôt, les amis.